buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthou.
Bonjour à tous et à toutes. Il y a 20 ans, le 21 avril 1998, il était condamné à 10 mois de prison pour incitation à la haine religieuse. Il purgera une partie de sa peine, mais fera rapidement mentir ce qui avait prédit sa mort politique. Aujourd'hui, il est l'homme fort de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, ancien maire d'Istanbul devenu président et qui, à la surprise générale, vient de convoquer des élections un an avant l'échéance initiale. Avec Anne Andlauer, retour sur cet épisode un peu oublié.
Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées nos casernes, les croyants nos soldats. Le 6 décembre 1997, lorsqu'il prononce ses vers dans la ville de Siirt, dans le sud-est anatolien, Recep Tayyip Erdogan est déjà une figure de la politique turque. Il est maire d'Istanbul depuis bientôt 4 ans. L'accession d'une figure du parti islamiste Refa à la tête de la plus grande ville n'a pas échappé à l'establishment militaro-judiciaire, défenseur autoproclamé de la laïcité. À l'époque, d'ailleurs, le Refa est menacé d'interdiction et il sera dissous par la Cour constitutionnelle un mois après le discours de Siirt. Ce jour de décembre 1997, donc, le maire d'Istanbul est en visite dans la ville. Recep Tayyip Erdogan se rend sur les sépultures de différents saints et prie publiquement pour que son parti ne soit pas interdit. Puis, avec un talent d'orateur qui ne s'est jamais démenti, il harangue une foule et prononce ses 4 vers, attribués apparemment à tort, à un auteur nationaliste vénéré en Turquie. Aussitôt déclamé, aussitôt jugé. Le 21 avril 1998, la Cour de sûreté de l'État rend son verdict. Recep Tayyip Erdogan est condamné à 10 mois de prison ferme. Ses propos visent à diviser la Turquie en 2 camps, les croyants contre les incroyants, les laïcs contre les anti-laïcs, répondent les juges au maire d'Istanbul, qui avait revendiqué sa liberté d'expression. Sa vie politique est finie, il ne pourra même plus être maire de quartier, titre le lendemain le journal Hurriyet, premier tirage de la presse turque. Recep Tayyip Erdogan n'est pas arrêté immédiatement. Il fait appel, l'affaire passe devant la Cour de cassation qui confirme le jugement. Le 5 novembre, Erdogan est déchu de son fauteuil de maire et le 26 mars 1999, il entre en prison. Il y restera finalement 4 mois. À sa sortie, il change de tactique, abandonne toute référence à l'islam politique, proclame son attachement à la démocratie et fonde un nouveau parti, l'AKP. La suite est connue. En mars 2003, Recep Tayyip Erdogan est élu député de la fameuse ville de Siirt et devient premier ministre. Il n'a plus jamais quitté le pouvoir.
Mon vieux, quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Suspends un violon, un jambon à ta porte et tu verras rappliquer les copains. Des soucis que le diable les emporte jusqu'à demain.
C'est un jambon que le monde entier apprécie, le jambon ibérique qui provient d'une race de cochon unique en Espagne, connue pour son aspect robuste, sa peau et ses sabots noirs. Mais la demande est si forte que de faux jambons ibériques se sont retrouvés sur le marché, à des prix défiant toute concurrence. Pour y remédier, le gouvernement espagnol vient de mettre en place un nouveau dispositif de traçabilité très précis. Depuis le début de l'année, les jambons vendus dans le commerce sont tous dotés d'étiquettes qui permettent de faire la différence entre plusieurs catégorie. Diane Combon.
Dans le séchoir de la maison Montesano, un producteur de porc ibérique d'Estrémadure, où pendent des milliers de jambons, Thomas Diaz n'hésite pas une seconde. Acheteur pour une chaîne de magasins spécialisée dans le jambon ibérique, il palpe chaque pièce avec une dextérité de connaisseur.
Ce qu'on est en train de tester, c'est la texture de la graisse. Elle doit être douce et souple. C'est toute la qualité du jambon qui dépend de cette graisse. Si elle est sèche et dure, ce sera moins bon. Et nous, on cherche le top.
Si pour les professionnels du secteur, la différence de qualité entre les jambons ibériques est une évidence, le consommateur, lui, a longtemps été laissé dans le flou. L'ambiguïté de l'étiquetage et de quelques publicités mensongères ont été à l'origine d'une certaine opacité autour de ce produit de prestige. Comme l'explique le président de l'association du porc ibérique, Francisco Javier Morato.
Il est vrai que dans le passé, le consommateur pouvait avoir des doutes au moment d'acheter son jambon. Il y avait moins de contrôle.
En 2014, le gouvernement espagnol met de l'ordre en adoptant une norme qui vise à simplifier les différents labels de jambon ibérique. 4 ans plus tard, ces jambons de la nouvelle réforme sont sur le marché. Ils sont chacun dotés d'une étiquette de couleur spécifique qui est fixée sur l'animal au moment de l'abattage. Celle-ci varie selon l'alimentation et la pureté de la race du cochon. Seuls les vrais patanegra qui se nourrissent de bellota, de glands de chêne et qui sont 100% race ibérique, obtiennent l'étiquette de couleur noire. La plus exclusive, comme le reconnaît l'acheteur Thomas Diaz.
L'étiquette noire, c'est le haut de gamme. Les producteurs et vendeurs doivent privilégier ce produit-là, car c'est notre emblème.
3 autres couleurs, rouge, vert et blanc, indiquent les différents degrés de qualité du jambon. Certains cochons sont nourris dans les pâturages, d'autres seulement au grain, dans des porcheries. Mais tous les cochons doivent avoir au moins 50% de gènes ibériques.
Les cochons avec l'étiquette blanche, ce sont ceux destinés à la grande consommation. Tout le monde a le droit de consommer de l'ibérique, mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens. C'est un produit qui est accessible pour 90% des gens en Espagne et aussi dans le reste du monde.
La grande nouveauté, c'est que chaque consommateur pourra suivre la traçabilité du produit d'un simple clic depuis son téléphone portable. Un exercice de transparence qui n'existe dans aucune autre filière de l'agroalimentaire, selon Ressus Pérez, spécialiste du secteur.
Quand vous allez acheter votre jambon en lisant le code de l'étiquette avec votre smartphone, vous pouvez savoir le jour où il a été tué, la propriété où il a été nourri et le nombre d'années de séchage.
Ces jambons, dont les prix vont de 45 euros le kilo jusqu'à 4000 euros pour un jambon affiné pendant plus de 7 ans, sont de plus en plus demandés. Après l'Europe et l'Amérique, c'est au tour de l'Asie de se ruer sur ce nouvel or noir. Jaime Ortiz, directeur commercial de la marque Montesano, reconnaît que le marché chinois et japonais constitue 80% des exportations.
Dans les années 90, lorsque nous avons commencé à nous intéresser à l'exportation, nous avons ciblé les marchés asiatiques. Ils sont aujourd'hui nos principaux clients à l'étranger car ils représentent un vaste marché avec un pouvoir d'achat important. Et en plus, ils ont une véritable culture gastronomique.
Cet engouement pour le jambon ibérique a pour conséquence une flambée des prix. Car le véritable porc patanegra élevé en liberté dans des pâturages et nourri au gland représente une offre limitée. L'Espagne ne peut en effet produire par an plus de 850 000 cochons 100% ibériques. Chaque bête devant disposer, selon la législation, d'un hectare pour se nourrir. Et la DSA, ces vastes pâturages plantés de chênes verts où paissent les animaux, n'est pas extensible. Or, pour Andrés Paredes, le directeur technique de l'association du porc ibérique, de nombreuses terres sont encore inexploitées.
On vient d'une époque de crise où la consommation avait diminué, où la production avait chuté, mais qui avec le temps a retrouvé son niveau d'avant. Et aujourd'hui, de nombreuses terres qui avaient été abandonnées sont exploitées à nouveau, car c'est désormais rentable de nourrir des animaux au gland.
L'an dernier, l'Espagne a abattu 3,5 millions de porcs ibériques, dont 700 000 nourris au gland. Une production en constante hausse qui évolue avec la reprise de l'économie espagnole.
Dans le Portugal voisin, c'est une autre spécialité qui dope l'économie régionale. Le pays fait désormais la course en tête dans l'industrie du cycle. Le Portugal est aujourd'hui le premier exportateur européen de vélos. La proximité géographique avec l'Europe réduit les coûts et séduit les investisseurs. Concentré dans la région d'Aveiro, au nord-est, l'industrie du cycle a su négocier le virage des nouvelles technologies. Une activité qui, localement, a permis de contenir le chômage à 5% contre 8% au niveau national. Écoutez le reportage de Marilyn Darcy à Agda, la Bike Valley du Portugal.
Marteau pneumatique, éclat de soudure, l'endroit fit penser à une usine de construction automobile. Mais nous sommes chez Orbita, un fabricant de vélos. Du rouleau d'acier initial à la petite reine finale, l'entreprise a su adapter son offre au fil du temps. Paulo Rodriguez, directeur d'Orbita.
L'acier, c'est solide, plus stable. Et en ce qui concerne l'entretien, c'est nettement plus facile. Comme désormais, on propose des vélos électriques, la question du poids des vélos en acier n'est plus aussi importante. Notre produit est confortable et il conjugue robustesse et souplesse grâce au moteur électrique.
Les premiers Vélib de Paris sont sortis des deux usines Orbita et les vélos partagés de la marque sont présents dans de nombreuses villes européennes. Dernier contrat, Lisbonne et ses 1700 Gira, dont 1200 sont électriques. Tout comme les bornes que Orbita fabrique, le vélo Gira est un joujou high-tech. Paulo Rodriguez.
L'une des caractéristiques de notre innovation, c'est d'avoir conçu un modèle qui se décline en deux versions, le conventionnel et l'électrique. La seule différence, c'est que pour le e-bike, le système d'attache à l'avant est plus grand pour permettre les recharges. C'est enfantin. On arrive à la borne et on a juste à brancher d'un clic avec cette sorte de clé. Ça aussi, nous l'avons mise au point. Aussi bien la gestion des données que la gestion des recharges électriques.
Alors que les géants européens d'équipements sportifs pensaient s'installer en Roumanie pour y lancer une production intensive à coût réduit, les Portugais ont su mettre en avant leurs atouts. À Bimota, la fédération qui regroupe les industriels du secteur a alors lancé Portugal Bike Value pour favoriser les partenariats, trouver des débouchés et des investisseurs. Aujourd'hui, le secteur produit 3 millions de bicyclettes par an. Pour Gil Naibais, qui préside à Bimota, la fédération patronale du secteur, le Portugal a su valoriser ses atouts.
Le projet Portugal Bike Value que nous avons mis en place a donné de la visibilité et valorisé notre activité, trop souvent dépréciée. Je parle du savoir-faire des entreprises, la manière dont elles travaillent, la flexibilité, la qualité du travail fourni. Ainsi, nous avons réussi à attirer l'attention du monde entier. À partir de là, nous avons proposé des partenariats en disant « voici nos compétences ». Venez ici avec les vôtres et ensemble on pourra aller bien plus loin. Et je crois que c'est pour ça que la région et le Portugal, la production n'étant pas limitée à Agda, sont des références mondiales dans le secteur de la bicyclette.
Les investisseurs suivent. Les plus intéressés, les Asiatiques, Taïwanais en tête, font déjà fabriquer leurs vélos à Agda. Gil Nabaïch.
En ce moment, pour les grandes marques qui vendent beaucoup, c'est devenu difficile de faire fabriquer un modèle spécifique en moins de 6 mois. Par exemple, une marque commande des vélos pas en jaune, mais les consommateurs réclament des rouges. Or, à ce moment-là, ce n'est plus possible de changer compte tenu des délais hors Europe. Donc elles se tournent vers le Portugal, tout proche, et nous, ici, en 15 jours, on peut livrer la nouvelle commande conforme au marché.
La fédération patronale Abimota s'est dotée d'un laboratoire sophistiqué, le seul de la péninsule ibérique, qui fait passer les tests de résistance et de sécurité et attribue les normes de qualité. Une autre usine, Agimayas, a cette particularité de travailler exclusivement pour l'un des plus grands équipementiers sportifs français. La production se situe dans le moyen de gamme, mais le cahier des charges imposé est extrêmement rigoureux. L'ingénieur Rui Tavares dirige l'entreprise qui porte le nom de son fondateur.
Au-delà du respect de la norme habituelle ISO 9001, on a régulièrement des audits de notre client et je peux vous dire que c'est bien plus exigeant que la certification. De nombreux paramètres sont prises en compte, la qualité du produit, les critères sociaux, si on prend soin de nos ouvriers, les questions financières aussi. Mais c'est sans doute le contrôle de la qualité qui prime dans notre entreprise.
La ligne de production serpente dans l'usine qui travaille en flux tendu. En bout de ligne, des cartons aussitôt empilés et rangés dans des camions. Les postes de travail où opèrent hommes et femmes sont ponctués par des pôles de contrôle de qualité. Ce qui a séduit la société française saute aux yeux. Rui Tavares.
Ce qui est sans doute vu comme le plus important dans l'univers de la bicyclette au Portugal, c'est notre grand savoir-faire. Dans la région, la majeure partie des gens a été ou est liée au secteur du vélo. Notre spécialisation, c'est la plus-value pour nos clients.
Chaque année, 450 000 vélos sortent de l'usine Agimayas, mais elle va doubler sa capacité avec un investissement de 4 millions d'euros et un nouvel espace. Avec ses 8 000 postes de travail, ses investisseurs qui se bousculent, la Bike Valley portugaise d'Agda n'a qu'un seul problème, trouver de la main d'œuvre suffisante. Le taux de chômage dans la région est de 5% contre 8% de moyenne nationale.
I start the bidding here at $40 million. 41, 42, 43 already. 43 million. 44 is bid. 45 in the room. 46. 51. 52. For the historic sum at $107 million. Hammer. So.
Une vente aux enchères peu banale ce samedi à proximité de l'aéroport londonien Heathrow. C'est tout le contenu du Terminal 1, fermé en 2015, qui sera proposé à la vente, Marie Billon.
Le Terminal 1 a été démonté pièce par pièce et désormais tout est à vendre, absolument tout, sauf les murs, enfin presque, puisque plus de 100 mètres de plaques de verre délimitant les routes au sein de feu le Terminal 1 vont passer sous le marteau du commissaire-priseur. Mais ce ne sont pas les lots les plus bizarres. Il y a aussi 15 escalators, 2000 caméras de surveillance, les manèges à bagages ou encore les scanners de sécurité. Quelque peu encombrant dans son salon, certes, mais ces lots-là sont réservés à des aéroports de toute façon. Les fans d'aviation et autres amateurs de déco rétro auront cependant de quoi se satisfaire. Des dizaines de panneaux de signalisation lumineux sont à vendre, celui qui indique le terminal 1, jaune vif, mais aussi arrivée ou départ, ou même le signe indiquant la direction des toilettes, ou encore les petits bonshommes, hommes ou femmes, sur les portes des WC. Les énormes et nombreuses horloges qui peuplaient le terminal pour inciter les passagers à se dépêcher seront aussi à vendre, ainsi que les dizaines d'œuvres d'art qui décoraient les murs. Des centaines d'acheteurs potentiels ont déjà manifesté leur intérêt, notamment des nightclubs branchés, qui veulent se créer une nouvelle identité, disent les organisateurs. Ceux-là pourront compléter leur intérieur avec les centaines de sièges, des salles d'attente, des portes d'embarquement, des fauteuils individuels ou bien des rangées entières. Les bureaux d'enregistrement seraient parfaits pour des tables ou bien un bar, idéal pour ceux qui aiment l'ambiance des aéroports mais qui ont peur de prendre l'avion.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Votre proposition musicale aujourd'hui, un certain Cosmo Sheldrake.
Oui, c'est un jeune londonien aux idées larges qui publie ce printemps son premier album, mais que les radars pop avaient déjà signalé ces quatre dernières années avec une série de chansons où l'on pouvait entendre des sons que l'anglais avait glanés un peu partout dans le monde. Un projet en accord parfait avec sa formation en anthropologie et en ethnomusicologie, mais aussi avec son engagement écologiste, puisque Cosmo Sheldrake fait également partie d'une troupe de théâtre pour laquelle il compose et qui entend sensibiliser le public au réchauffement climatique. Son album est traversé par de jolies influences qui vont de la pop des années 60 à la musique classique du 20e siècle, avec des orchestrations que le musicien a conçues et enregistrées seul. La nature y est aussi cordialement invitée et il suffit de tendre l'oreille pour entendre des oiseaux chanter sur le titre que je vous propose, Wriggle.
Did you go? Did you wriggle or roll? Did you giggle or grumble? Thumb, thumb, from where did you come? Did you toddle or run? Did you skip, jump or stumble? Some pickles on and play the Metatron. Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down and bring along? Count to 21 and go and right a wrong and feed the pelicans.
Wriggle, extrait du tout premier album plein de gazouillis de Cosmo Sheldrake, la proposition musicale de Vincent Théval cette semaine.
Say there, the jungle there. Which will it be for? How now, big brown cow, the bow or the bow, the spade or the plow? Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna go down? Have a sing along, put some pickles on. The Metatron. Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down? Count to 21 and go and right or wrong and feed the pelicans.
Richard Rifono a réalisé mise en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver lundi dès 17h40, temps universel. Et tout le week-end sur RFI.fr à la page émission et sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio.